Je suis plus qu'honoré d'être accueilli par Monsieur le directeur de Saint-Jean-de-Passy, par vraiment tous ceux qui ici, depuis déjà si longtemps, sauvent l'honneur de l'enseignement, et non seulement de l'enseignement, mais du savoir. Mais aussi, je souhaite vraiment dire à quel point, étant, je pense quand même, depuis très très longtemps ami de Philippe Nemo, j'ai suivi avec passion toute sa réflexion et la série de ses entreprises nombreuses en faveur du renouveau de la mission et de la destination du professeur. Plus généralement, c'est sa façon de considérer, comme d'autres, on a entendu ces paroles il y a quelques minutes, considérer que l'école et le mode d'exercice des professeurs dans l'école étaient peut-être le cœur même de, non seulement de la société, mais de la conservation, de la transmission et par conséquent du renouveau de l'ensemble des formes de pensée, de conduite et aussi de réflexion qui peuvent faire d'un homme un être digne et libre. Ces convictions sont les miennes aussi bien. L'extraordinaire volonté qui préside à la naissance, puis maintenant au développement de l'école professorale de Paris, est le signe, tout cela sont le signe de ce que il est permis d'espérer que les forces qui entraînent l'école en France aujourd'hui à une forme de déclin, je crois que personne ne conteste, que ces forces n'ont qu'un temps. Donc c'est vous dire que j'ai accepté, évidemment, avec la plus grande joie, de venir répondre à cette invitation, demande que vient encore de résumer ou de signifier Philippe Nemo. Et il m'a proposé le sujet même que je vais essayer de traiter, sous le titre Un grand éducateur, le père Guy Monod de l'ordre des prêcheurs, d'ailleurs dominicain. Cela peut sembler étonnant de commencer un cycle consacré aux grands éducateurs par une figure dont, consciemment, le père Monod savait qu'elle était vouée à l'humilité. Je ne dis pas à l'effacement, mais d'une certaine manière à la discrétion. Jamais ce professeur et ce savant ne s'est manifesté autrement que dans la cité savante et par son savoir et par la transmission de ce savoir. Il n'est donc pas inutile que je le présente et que je dise pourquoi. Cela me touche profondément et ça me paraît important d'évoquer son exemple. Guy Monod nous a quittés le 4 avril 2016, il était âgé de 87 ans, et quand je l'ai connu, quand je l'ai rencontré pour la première fois en 1980, il prenait en charge la chaire d'exégèse coranique de la section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. Donc j'avais un peu, voilà, 30, 31 ans, lui commençait mission, enfin commençait d'assumer cette chaire dont il resta détenteur jusqu'en 1994. Brièvement, quelques éléments biographiques indispensables et qui nous conduiront à autre chose qu'à la sécheresse abstraite des nomenclatures. Guy Monod était né en 1928 à Paris, du côté de son père était originaire de Pontarlier et du côté de sa mère d'une famille suisse. Comme il le dit lui-même dans un court texte autobiographique, je cite, « Après une jeunesse sans histoire et un début d'études supérieures, j'ai fait un choix de vie définitif, être religieux dominicain et prêtre catholique dans la foi chrétienne. » Ces phrases, il les a écrites à peu près 2 ans avant sa mort, pour un texte qui figure dans un volume d'hommages que nous avons publié à l'école intitulé « Islam, identité et altérité » sous la direction d'un de mes collègues et amis, M. Mohammad Ali Amir Moezi, qui a à l'heure actuelle la chaire d'études chiites. Et donc on lui a demandé un texte, et dans ce texte on trouve ces lignes. Ceci est très important parce que on voit qu'aucune contradiction n'apparaissait à ses yeux, aux yeux de Guy Monod, entre la fidélité à un choix définitif, comme il dit, et donc le fait que, jusqu'à sa mort, il était essentiellement, pour lui, à ses yeux, un dominicain et un prêtre, et d'autre part, le fait d'être devenu, et c'est là que peut-être son exemple pourra être illustré, un grand enseignant dans le cadre de notre école pratique des hautes études et un enseignant dont le sujet était tout sauf la foi chrétienne. C'était non seulement l'islam, mais dans l'islam, quelque chose dont d'ailleurs il s'évadait volontiers, j'en parlerai, mais une des spécialités les plus islamiques, si je puis dire, qui soit, c'est-à-dire l'histoire de l'exégèse du Coran. Alors, je donne quelques étapes de sa vie. Sa formation, il l'a reçue pendant 7 ans d'études au couvent du Sauchoir, où il eut comme professeur un bon nombre des pères dominicains qui joueront un rôle important au Concile Vatican II. Il fut affecté à l'Institut dominicain d'études orientales du Caire après un stage de formation à la langue arabe à Tunis, chez les Pères Blancs, et il se trouve, des rencontres transhistoriques, il se trouve que son professeur d'arabe, Père Blanc, le Père Bormans, qui est encore de ce monde, et fut un... je lui fus d'abord très lié dans l'association des amis de Louis Massignon, que j'ai eu l'honneur de présider, et où siégeait le père Bormans, et encore après cette époque-là, et encore aujourd'hui. Et je disais au père Bormans souvent, et je parlerai, eh bien, la méthode que le père Monod m'a imposée, il n'y a pas d'autre mot, pour me former à l'arabe, elle n'était autre que celle que vous lui aviez enseignée. Il y a ainsi des traditions, des transmissions sur des dizaines d'années qui peuvent témoigner à la fois d'une permanence, d'une grande exigence et d'une discipline dont on n'imagine pas à l'origine qu'on va y être soumis. Le père Monod est arrivé en Égypte en 1960. Il y est resté 12 ans au couvent des Dominicains du Caire, qui, il faut le rappeler, et un couvent qui est situé à côté de la bibliothèque des Dominicains au Caire, qui est l'une des 2 plus grandes et plus belles bibliothèques de tout l'Orient. Il y en a 2 comme ça qui sont au-dessus du lot, si j'ose dire. C'est la bibliothèque des Dominicains au Caire et la bibliothèque de Saint-Joseph, donc des Jésuites, à Arbeyrouth, bibliothèque de centaines de milliers de volumes, et qui, miraculeusement, l'une et l'autre ont échappé aux guerres et aux tragédies actuelles, déjà depuis un certain temps, du Proche-Orient. J'ai moi-même été enseigné à Saint-Joseph, et je m'étonnais que, alors que nous étions réfugiés derrière les parpaings sur la ligne de feu, ça tirait ferme de tous les côtés, la grande coupole de la bibliothèque de Saint-Joseph fut épargnée. Bien, ce fut le cas aussi, jusqu'ici en tout cas, pour l'admirable bibliothèque du Caire. Il soutint un doctorat en études islamiques. Je n'oublie pas qu'il fut aussi à Téhéran l'élève de mon propre maître, de notre maître commun, et à qui c'est Philippe Nemo qui m'a présenté la première fois. puisqu'il avait fait un voyage d'études et d'exploration en Iran en sa compagnie, Henri Corbin. Si les fils se nouent, Henri Corbin, qui est l'une des plus immenses figures de l'histoire de la philosophie au XXe siècle, il fut un grand spécialiste de philosophie allemande avant-guerre et après-guerre encore, premier traducteur de Martin Heidegger, de Jaspers et de quelques autres en France, ami d'Alexandre Kojève, Alexandre Coiret et élève d'Étienne Gilson et de Louis Massignon. Et Henri Corbin donnait des cours 6 mois en Iran, à Téhéran, où il enseignait à l'Académie impériale de philosophie, ainsi qu'à Mashhad et dans d'autres cités, et 6 mois à Paris. Et donc Guimonneau est allé, comme tout le monde faisait à ce moment-là, est allé 3 ans en stage à Téhéran, où il s'est remarquablement formé en persan. Et par ailleurs, il a également acquis une très solide formation dans les religions de l'Inde. Il était très, très amateur et très connaisseur dans le domaine indien, y compris sur le plan d'ailleurs sociologique, politique, historique. Je l'ai entendu jusqu'à ces dernières années prononcer des conférences extrêmement éclairantes sur la situation, y compris la situation actuelle politique de l'islam et de l'hindouisme en Inde, extrêmement brillante. C'est donc tardivement, en apparence, en 1980, qu'il fut élu à notre école des hautes études et qu'on lui créa, c'est la tradition à l'école, on crée la chaire le plus souvent, enfin très souvent pour le futur titulaire, Islam et exégèse coranique. Et c'est alors que je le rencontrai. Quant à son œuvre, elle est elle-même témoignage de l'esprit dans lequel il enseignait, et esprit qui, je pense, a une valeur universelle indépendamment du caractère technique de l'érudition enseignée par et transmise par Monod. Deux livres en témoignent, dont les titres eux-mêmes sont significatifs. Penseurs musulmans au pluriel et religions iraniennes au pluriel, qui était paru en 1974, puis Islam et religion au pluriel en 1986. C'est dire si, comme chercheur, chercheur de premier ordre, Guimonneau estimait que ce qui importait était non seulement l'islamologie, non seulement, bien sûr, pour lui, et principalement le christianisme, mais bien tous ces croisements conflictuels, ou au contraire, faits de dialogue, de transmission, de syncrétisme, d'interpénétration, qui permettent à la recherche et à la connaissance de s'élever jusqu'à un horizon qui est celui-là même du monde spirituel dans sa totalité. Le mot spirituel, ici, en effet, doit être mis au premier plan. Toujours dans ce texte testamentaire qu'il nous a laissé pour ce volume dont je parlais, Guimonneau écrit ceci, à propos des religions. Il explique comment une religion élaborée, donc ayant pleinement à la fois son dogme, ses livres saints, et son rituel ou ses rituels, etc., etc., finit, dit-il, par atteindre son moment intellectuel, c'est-à-dire, je cite, « parvenir à une compréhension globale et plus ou moins systématique d'elle-même ». Plus tard, sans doute, peut advenir, écrit-il, son moment spirituel, quand les éléments symboliques et doctrinaux deviennent chez certains adeptes le germe et le cadre d'une conscience approfondie et d'une recherche vitale. Alors, c'est évidemment un schème historique qui se pourrait contester, pas par moi en tout cas, mais je le retiens. Moment intellectuel, c'est le moment où une religion, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le shintoïsme, le christianisme, parvient à la compréhension plus ou moins systématique d'elle-même, c'est-à-dire parvient à ce retour sur soi qui n'est pas simplement un repli dogmatique ou une autodéfense, mais qui est l'approfondissement déjà intellectuel. Et je vais revenir sur l'importance de ce mot pour ce père dominicain, qui donne à la raison ses droits à l'intérieur même de la religion et pour la religion, et éventuellement pour sa vie, la recherche vitale qui est la sienne. Mais deuxièmement, il parle du moment spirituel. Et c'est cela qu'il recherchait. Dans ses cours, et peu à peu j'arrive à sa forme d'enseignement, il n'était pas rare que nous eussions des échappées vers la Bhagavad Gita, ou vers telle ou telle croyance de l'Inde, que nous eussions bien entendu des citations en persan, puis de temps en temps il traduisait des poètes persans, évidemment maintes références au domaine sunnite où majoritairement se trouvaient placés les auteurs qu'il expliquait, mais non moins au domaine chiite. Me souviens d'un cours sur l'histoire de la prière en islam qui a donné lieu à publication et où il a distribué des traductions si impressionnantes de prières chiites qu'il s'est trouvé que j'en ai usé dans des circonstances dramatiques, c'est-à-dire lors de funérailles, et le prêtre catholique me demandait si j'avais un texte à lui proposer, et il me vint de lui proposer cette traduction faite par Guy Monod d'une prière chiite du quatrième imam. Je n'ai jamais vu un prêtre catholique aussi enchanté par un texte. Il m'a dit « Vous allez le lire deux fois ». Alors je ne vous ai pas apporté cette prière de chiite, mais c'est vous dire qu'il arrivait à restituer dans des textes pourtant constitutifs d'une religion, et d'une religion tout à fait organisée, il arrivait à y trouver, y imprimer, en dégager, y révéler ce qui pouvait avoir une valeur universelle, au niveau en tout cas de l'horizon du monde spirituel, de telle sorte que, sans trahir le moins du monde le texte, il en révélait ce qui pouvait être source d'inspiration, y compris dans des domaines spirituels tout à fait étrangers, et voire même hostiles de temps en temps, hélas de plus en plus souvent, les uns aux autres. Et le Père Monod écrit encore, pour justifier justement ce qu'est toute la science des religions, la recherche, l'étude, et donc la transmission et l'enseignement, quelque chose qui, je crois, est valable pour nous tous et indépendamment de son ancrage propre. Il dit « L'identité, c'est le présent de la mémoire. Le présent, c'est-à-dire l'actuel de l'histoire. Le présent, c'est-à-dire le don du passé. » Cette idée que le présent ne soit pas le reniement du passé, mais au contraire le don du passé, c'est-à-dire ce que le passé à la fois donne et permet, autorise comme instant ou instance de réception du don que le passé est lui-même, cette idée me paraît absolument centrale dans l'éducation et dans la transmission du savoir qui est essentielle à la mission du professeur. Le présent, c'est l'actuel de l'histoire. Le présent n'est pas la fin de l'histoire. Le présent n'est pas une date à la suite d'autres dates. Le présent n'est pas ce qui succède au passé, mais c'est l'actuel de l'histoire, c'est-à-dire ce qui est toute l'histoire en tant qu'elle est actuelle. Évidemment, il y a de quoi s'enthousiasmer quand on lit de telles phrases, car cela signifie que non seulement il n'y a rien dans la conservation, on parlait du rôle conservateur de l'enseignement, il n'y a rien dans cette conservation qui soit de l'ordre des sépulcres blanchis ou de je ne sais quelle attitude purement antiquaire, mais c'est tout l'inverse.